journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, nous attendons vos réactions sur les derniers jours de campagne en République démocratique du Congo. Martin Fayulu tiendra meeting aujourd'hui à Kinshasa, à la capitale. Félix Tshisekedi et son colistier Vital Kamerhe sont attendus aujourd'hui, quant à eux, dans la province de l'Équateur, à Mbandaka. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du FCC, le dauphin de Joseph Kabila, a annulé, lui, sa visite à Tsikapa, dans la province du Kasaï, suite à des heurts. Alors, commencée le 22 novembre dernier, la campagne a été émaillée de nombreuses violences et tensions. Elle se terminera le 21 décembre prochain à minuit, soit vendredi. Après l'incendie de la CENI, tout sera-t-il prêt pour le jour J, dimanche, pour intervenir, nous faire part de vos commentaires, composés le 01 55 07 58 00. Mais avant cela, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonsoir. J'appelle concernant la libération provisoire du président Laurent Gbagbo. Moi, personnellement, je suis favorable. Mais le problème est que ces partisans... Au fait, à la base, il faut créer un fichier S aussi en Côte d'Ivoire. Que ce soit du camp de Ouattara, que ce soit du camp de Gbagbo, il y a des extrémistes partout. Ce qui s'est passé sur Facebook, c'est dangereux. La fille, elle a prononcé quelque chose qui est très, 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 très dangereux. Et elle est identifiable. C'est pas pour dire que, même si c'est un montage, la fille, elle est identifiable. On peut la chercher, la trouver, la mettre aux arrêts. Et lui dire, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pareil dans le camp de Ouattara. Parce que nous, on en a marre de cette guerre. On en a marre de morts. Cette histoire d'article 125 qui a été prononcée par la fille, elle aussi, elle était fortement identifiée. Elle l'a récupérée. Le mettre aux arrêts. C'est très, très, très dangereux. Que ce soit dans le deux camps, celui qui prononce des discours de haine, il faut qu'il soit mis aux arrêts. Et je pense aussi, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont les champions, il faut les arrêter. Ceux qui prononcent des discours de haine, il faut les arrêter. Je prononce pour la réconciliation vraie. C'était ma participation.
Oui, bonjour, chers amis auditeurs de Africa numéro 1. Moi, j'appelle par rapport à M. Idriss. Je crois que M. Idriss n'a rien compris. Il n'a rien compris. Gbagbo, c'est son pays. Et puis, la justice n'a rien à voir avec la politique. Il y a la politique et puis il y a la justice. La justice, demain, si on ouvre le dossier, il n'y a pas de machin dessus, c'est fini. Il vient chez lui. Alors, M. Idriss, moi, je pense que vous avez la mémoire courte. Hein. Parce que c'est grâce à Gbagbo que Alassane Dramane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Le président Bédié a mis un arrêt d'arrêt contre lui. Et quand Gbagbo est venu au pouvoir, pour que la paix revienne dans nos très beaux pays, cher pays Côte d'Ivoire, il a fait revenir Alassane Ouattara. Donc, c'est son remerciement. Mais je crois que pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, si Gbagbo ne revient pas, mais il n'y aura pas la paix. On ne peut pas prendre un individu comme ça, l'amener hors de son pays. Mais Gbagbo, c'est un propriétaire terrien. Il est chez lui, Laurent Gbagbo. C'est un Ivoirien. C'est l'Oyou. Merci beaucoup. Au revoir.
Papa, mon Dieu, on n'a même pas encore commencé à bénéficier des mesures obtenues par les gilets jaunes, par la manifestation des gilets jaunes. On commence à voir des prix augmenter. Quand on parle du pouvoir d'achat, je viens de circuler dans le magasin au champ, mais finalement, les madeleines qui étaient à 62 centimes sont montées, qui étaient à 62 centimes avant-hier dimanche, et sont montées à 67 centimes. Et ainsi de suite, j'ai vu pas mal de biscuits et de petits trucs qui augmente de plus de centimes qui augmente. Comment on peut bien vivre dans un pays des escrocs comme ça, hein? Oh, chers Africains, ouvrez les yeux. Nous vivons dans ce pays, nous devons être aussi très regardants avec les dépenses. Bon, voilà. On nous fait miroiter le bonheur, voilà. Le pouvoir d'achat va augmenter. Bon, voilà. On vous augmente 100 euros. Quelque part, les trucs de première nécessité augmentent de prix. Donc finalement, comme ça, nous vous allons augmenter quoi. Il faudrait que le public soit un peu plus regardant sur ça pour que les dix pouvoirs d'achat soient vraiment réels et soient concrets. Allez, merci, salut.
Oui, je voudrais laisser un message par rapport à M. Félix Tshisekedi. Vous savez, Félix Tshisekedi, c'est un vendu. Il n'est pas, c'est un homme qui n'est pas sincère. son papa, Étienne Tshisekedi, est décédé dans des conditions qui ne sont pas claires. La suite de l'enterrement de son père, nous ne le savons même pas. Pendant ce temps-là, Félix part aux élections comme si rien n'était. Les choses se sont faites en cachette. Il est clair que Félix était... Il est clair que Félix est devenu le pion de Kabila. Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, cher ami Gilea et Madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport à l'émission d'aujourd'hui qui concerne la RDC. Je suis vraiment très inquiet, très préoccupé. À 4 jours des élections, je ne vois pas du tout, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, mon inquiétude est grande. Voici ma modeste contribution pour l'émission d'aujourd'hui. Joyeux Noël à tout le monde. Et puis bien des choses après l'introduction de Mekasongo. Ciao, ciao.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, dernier jour de campagne en RD Congo. Cela fait 2 ans, hein, exactement jour pour jour, que le mandat de Joseph Kabila est terminé. 2 ans que l'élection présidentielle est attendue. Alors, tout sera-t-il prêt pour ce dimanche? Quel regard avez-vous porté sur la campagne? On commence avec vous tout de suite et on commence avec Johnny. Johnny, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Johnny Tshimbalanga, président fondateur du Réveil du Peuple pour bâtir votre mouvement citoyen. Bienvenue dans le JDA, Johnny. Alors, pensez-vous que tout est prêt pour dimanche? On se souvient hein, qu'un entrepôt de la CENI avait été incendié le 13 décembre dernier. Plusieurs milliers hein, de machines à voter avaient disparu dans les flammes. Kinshasa sera-t-elle prête pour dimanche, Johnny, selon vous?
Oui, ça c'est... Merci, bonjour aux auditeurs. Ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Et la Kabylie et M. Kabila nous ont dit qu'ils vont organiser les élections le 23. Et ils doivent se préparer techniquement pour que les organisations se fassent. S'il n'y a pas les élections le 23, ça sera de leur responsabilité. Donc c'est nous, on ne peut pas se soucier de ça. Nous, on doit nous mobiliser et nous consacrer à nos compatriotes pour qu'ils puissent aller voter. Et voter utile, voter l'opposition. C'est pour ça que nous demandons à l'opposition de...
Quelle opposition, mon cher Johnny? Lequel candidat? Donc, on peut citer Félix Tshisekedi de la coalition Cash et on peut citer Martin Fayoulou de la coalition Lamouka, entre autres. Il y en a d'autres, d'ailleurs.
Oui, c'est pour cela que nous demandons à ces deux, M. Fayoulou et M. Tshisekedi, de prendre de la hauteur, de se sacrifier, de voir l'intérêt général, de se réconcilier pour nous sortir un seul candidat, un vrai candidat commun. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons il y a trop d'ambiguïté. Aujourd'hui, nous voyons ils ont convergé. Tous les deux, ils disent qu'ils vont aller aux élections. Mais ils ne peuvent pas aller aux élections en deux. Il faut qu'ils aillent en élection en une seule personne. Nous voulons un seul candidat, un vrai candidat commun pour faire gagner la République et pour faire gagner l'opposition. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ils doivent.
Est-ce qu'il est encore temps? On est quand même à, excusez-nous Johnny, à 3 jours du scrutin. Est-ce que certains vont abandonner leur candidature après un mois de campagne?
Bien sûr, Stéphanie, tout est possible. À 1 heure, à 30 minutes, tout est possible. Et vous imaginez, nous sommes des humains et nous sommes capables de faire des choses pour l'intérêt de tous. C'est aujourd'hui, ces deux-là, ils sont obligés de faire les sacrifices pour l'intérêt de la République. Ils ne peuvent pas aller aux élections en deux, en concurrence, parce que la Kabylie va profiter pour trouver un argument pour justifier leur victoire. Aujourd'hui, nous voyons l'engouement de l'opposition. Nous voyons comment le peuple désire les changements. Mais ces deux responsables, ils sont aujourd'hui devant le monde entier pour montrer qu'ils sont des hommes d'État. Il faut qu'ils trouvent un moyen pour trouver un seul candidat pour aller aux élections, c'est pour faire clair. Gagner la République.
Bon, bah merci Johnny d'avoir ouvert cette émission. Johnny, hein, qui en appelle encore à une candidature unique de l'opposition en vue du scrutin présidentiel de ce dimanche. Merci beaucoup Johnny Tshimbalanga. On continue de parler de la RD Congo avec William. William, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour William, vous avez entendu Johnny qui dit « Ah, il est encore temps pour l'opposition de trouver un candidat unique, qu'en pensez-vous »
Non.
C'est trop tard.
Non, c'est trop tard, Stéphanie. Les élections, c'est dimanche, le 23 Le 23, c'est dimanche. Donc, c'est pas possible. En fait, le problème, Johnny, je suis désolé. Johnny, je crois, il est de Martin Fayoulou, si je ne me trompe pas. Mais l'erreur a été déjà commise depuis à Genève. C'est là où l'opposition a manqué de cohérence, d'idéologie politique commune pour faire barrage au plan du pouvoir. Parce que c'est ça, en fait, Stéphanie, que nous devons comprendre. Moi, j'étais intervenu une fois sur la situation de la RDC, au grand débat, comme c'est une émission que je suis très, très de près. Mais je l'avais dit. Les opposants ne peuvent pas dire aujourd'hui que, et voilà, Kabila ne veut pas partir. Les opposants, il faut qu'ils fassent une remise en cause. Mais je pense qu'ils feront cette remise en cause au moment où Kabila va jouer son jeu, son dernier coup, pour y rester avec Chadari ou qui que ce soit, mais du pouvoir. Donc c'est là où le bas blesse, parce que tout le monde était sûr que l'opposition avait déjà pris une bonne initiative en ayant un candidat commun. Moi, c'est mon souci jusqu'à aujourd'hui. Mais arrivé à juste 24 heures, tout change. Et quand ça change tout le système. Donc Martin Fayoulou, il faut comprendre une chose. Si c'est lui que le pouvoir a toujours mis les barreaux dans les roues pour battre campagne, c'est parce que ils ont compris que lui, il est dans le vrai. Il est dans le vrai et il faut le mettre barrage.
Alors, qu'avez-vous pensé de sa campagne, justement, Martin Fayoulou? Il y a eu quelques difficultés, notamment, on se souvient, on en a parlé sur cette antenne hein, la semaine dernière, à Lubumbashi.
Oui, mais sa campagne, en fait, ce que j'ai encore compris, ils n'ont pas vraiment aussi des bons projets de société. Parce que tous, ils disent seulement on va faire le changement, on va rétablir la paix, on va faire ceci. Mais la campagne est restée pour Martin Fayoulou, était plus basée sur le refus de la machine à voter et des revendications, genre un peu comme des enfants en fait qui pleurent, qu'on a besoin de ça, on ne donne pas et tout. Mais là, je suis honteux de je ne comprends pas une chose après. À la dernière minute, Martin Fayoulou a dit qu'il va partir aux élections, même avec la machine à voter, mais à une seule condition qui mette l'œil sur ça. Mais Stéphanie, ça c'est quelle façon de voir les choses. Donc là, l'opposition en fait s'est prise au piège. Et c'est
finalement, tout ce que les préalables qu'a posé l'opposition depuis le début de la campagne, depuis le début du processus, à chaque fois elle est revenue dessus et elle a cédé, vous dites.
Elle a cédé, l'opposition a cédé, et là c'est le pouvoir qui a gagné le Kabila, parce que malgré toutes ces menaces verbales, il n'y a pas eu de menaces physiques, disons, l'opposition n'a pas menacé le pouvoir parce qu'ils n'ont pas des moyens pour aller avec les militaires et tout, mais il y a eu des propos qu'ils ont tenus. Ils ont dit, tant qu'il y aura la machine à voter, nous on n'ira pas aux élections, et le peuple va nous suivre. Maintenant, là, la question à se poser, est-ce que l'opposition a trahi le peuple, ou le peuple est encore dans l'aveuglement? Parce que ça, c'est la question qu'on doit se poser, puisque s'ils partent avec le système de cette machine à voter, ça veut dire que si l'opposition, le pouvoir gagne, il faut dire plus qu'ils disent que non, voilà, ils ont triché. Parce qu'il faut avoir une ligne à tenir. On ne part pas aux élections, et voilà, et on va boycotter. Le boycott, comme j'ai toujours dit, c'est une politique de la chaîne vide qui ne paye pas. Mais après, il faut savoir si vraiment vous êtes fixe dans vos positions. Donc la politique, c'est ça, Stéphanie. Moi, j'ai écouté dans une des radios concurrentes de notre radio Africa 1 ce matin, le directeur de cabinet de Joseph Kabila.
Tout à fait, Némi Mouilania, hein, directeur de cabinet et coordinateur du FCC. Hein.
Tout à fait. Il a dit quoi, Stéphanie? Et c'est grave, c'est dangereux. Il a dit que l'opposition, si l'opposition gagne, ça sera un miracle. Il a dit que c'est par miracle qu'ils vont gagner, parce que Chadari, c'est le vainqueur de ces élections. Donc la victoire du pouvoir est là avant même le match joué. Donc quand il profite même de la division de l'opposition. Il a même dit, une opposition divisée, comment elle peut gagner une élection? Voilà, je ne sais pas si eux, ils l'ont écouté parler, et je réponds à ces questions-là, mais c'est décevant de créer ce monde, d'ouvrir un boulevard à vos ennemis dont vous avez la possibilité de les contrer. Mais l'union fait la force, on dit. C'est le défaut et les fautes graves politiques que commettent nos opposants en Afrique en général, Stéphane. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à...
Bon, plutôt critique alors, William, hein, sur la campagne de l'opposition en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, William, de votre participation. Alors, William, effectivement, parler de l'interview de Némi Mouilania, directeur de cabinet du président Kabila et coordinateur du FCC, c'est la plateforme hein, qui soutient le candidat de la majorité. Dans son interview, Noémie Mouilania n'a pas exclu hein, non plus hein, que Joseph Kabila brigue un nouveau mandat en 2023. Merci encore à William. On va demander à Blaise qui a bien patienté. Bonjour Blaise.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour aux auditeurs des JDA.
Bienvenue Blaise dans le JDA.
Oui, je suis désolé pour dire à mon compatriote qui vient de passer tout à l'heure et aux autres et à l'autre qui est passé avant que ils battent la campagne, ces gens ils battent la campagne, ces candidats, tout ça, Fayoulou, tu sais qu'elle dit tout ça, ils battent la campagne, ils ont sillonné les provinces. Est-ce qu'ils ont pu ils ont pu quand même identifier des bureaux de vote? Est-ce qu'ils ont vérifié s'il y a des listes des électeurs affichées? Non. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un conflit qui se passe au niveau de Maïndombé. Il y a beaucoup de réfugiés qui passent au nord de Brazzaville aujourd'hui. Il y a plus de 300 ou 400 réfugiés congolais. Tous ces gens-là sont inscrits dans les... Ce sont des électeurs qui vont voter. Et s'ils fuient au Congo, ils vont voter comment? Ils ne vont pas voter. Et la CENI qui a brûlé les machines, soi-disant l'incendie criminel, qui a mis des machines à voter, ont été brûlées. Ce sont des mascarades du gouvernement Kabila. Ils veulent pas organiser les élections. Mouilania, il dit aujourd'hui, mais il faut le suivre ce qu'il a dit. Mais il dit des choses, mais sans conviction. Il n'y a pas de conviction. Ils savent qu'il n'y aura pas d'élections. Ils savent bien.
Pour vous, le scrutin n'aura pas lieu dimanche. Hein, c'est ce que vous dites,
pas,
Blaise.
Il n'y aura pas lieu. Pour moi, il n'y aura pas lieu parce que c'est. Je ne sais pas s'ils voient ici, si ces candidats voient quelque chose. Est-ce qu'ils ont identifié des bureaux de vote? Est-ce qu'ils ont précisé des bureaux de vote? Les listes, ils n'ont même pas affiché aucune liste des électeurs.
La CENI a répondu à ça hein, en disant que c'est un faux procès qu'on lui fait, parce qu'elle dit avoir publié toute la liste provisoire dans les délais prévus par la loi et que faute de réclamation, ces listes sont devenues de facto définitives. Hein, c'est ce que dit la CENI.
Et voilà. Dans ces listes, est-ce qu'ils ont pu vérifier? Ils ont fait des campagnes? Ils ont fait des réunions pour voir? Je sais pas. Mais bon. Pour moi, franchement, je ne crois pas. J'avais déjà dit plusieurs fois au JDA, et avant même, je ne crois pas à ces élections. Kabila, il ne veut pas organiser ces élections.
Vous pensez quoi? Qu'elles vont être reportées d'ici dimanche, c'est ça?
Mais oui, même s'ils prétendent gagner les élections, ils font figuration, mais ils ne vont pas organiser les élections. C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Ils nous partent des Nanga en Afrique du Sud pour aller imprimer les borderos, je ne sais pas, des votes ou des trucs. Mais il va ramener quand ils vont les acheminer quand? Et les Congos, vous voyez l'état des routes au Congo, on n'a pratiquement pas de routes. On a des provinces enclavées, il n'y aura même pas moyen d'acheminer des matériels électoraux. Hein? Mais bon.
Blaise, merci.
On verra. Mais moi, je vous promets, je passerai peut-être lundi prochain pour vous dire que voilà, oui, ça n'a pas été organisé. Hein.
Voilà. Eh ben, peut-être hein, le lundi, hein, il y aura Nadir Djennad aux commandes de cette émission. Nul doute hein, que cette émission du lundi hein, 24 sera consacrée normalement donc au lendemain d'élection en RD Congo. Hein, mais Blaise pense qu'il n'y aura pas d'élection. Merci Blaise. C'est un peu le cas aussi d'Aïko Mopongi. Bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Monsieur Aïko Mopongi. Vous dites qu'il n'y aura. Alors vous dites pas qu'il n'y aura pas d'élection. Vous dites qu'il n'y aura pas d'élection libre et transparente. Vous dites les jeux sont joués, les jeux sont faits. C'est ça?
Mais nous, Madame Hartmann, connaît notre position. Il n'y aura pas d'élection libre et transparente. Les Congolais ne voteront jamais libre et transparente. La seule chose pour libérer les Congolais, pour qu'il y ait des élections libres et transparentes où les Congolais voteront tranquillement, Madame Hartmann, il faut que le peuple s'élève pour se débarrasser des occupants ou se débarrasser des gens qui ont pris nos institutions en otage. Parce que les institutions congolaises sont prises en otage par un groupe de gens qu'ils ne veulent pas lâcher pour qu'il y ait les élections libres et transparentes. Tout ce que nous voyons là-bas, moi je ne parle pas de mascarades, mais la chose est vraie, s'il y a des élections, c'est Chadari qui va gagner. C'est simple, clair et net, Madame Hartmann. Il y a plusieurs des exemples. On a vu les exemples au Kenya, parti au Mali. Il y a beaucoup d'exemples. Ouais.
Quand pour vous, les jeux sont faits d'avance, alors, mon cher Aïko. Hein.
Ouais.
Pour vous, les jeux sont faits d'avance.
C'est fait en avance, bon. Parce que vous avez suivi les directeurs des cabinets, que tout le monde, ils ont parlé tout à l'heure. Ils ont dit, il a dit par exemple, si l'opposition gagne, ça sera un miracle. Parce qu'ils savent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont manigancé. Mais la seule chose demande au peuple congolais, comme nous avons mis l'article 104 en pratique, il faut que l'article 104...
Ah oui, mais bon, Aïko Mopongi, moi je vous écoute régulièrement quand même. Hein. L'article 64, ça doit faire quelques années que vous nous en parlez. Bon,
Ça va se faire, madame, à madame Maximane. Si nous voyons, par exemple, les 23, si par exemple Chadari gagne, les gens ils vont sortir, les gens ils vont mourir pour une seule personne, par exemple, les gens ils vont mourir pour Fayulu, les gens ils vont mourir pour Tshisekedi, par après. Les gens ils vont partir pour rien. Par exemple, on a vu au Kenya les partisans de l'opposition, les gens de l'opposition.
Moi qui sont, qui
tous sont morts pour rien. Il y a personne qui l'a. Ils ont pas eu les droits ou bien des choses, mais ils sont partis pour rien.
Vous dites finalement, on va dans vers une nouvelle contestation du scrutin et peut-être de nouvelles violences avec Aïko Mopongi qui a aucune confiance sur la transparence et l'équité du scrutin. Merci beaucoup Aïko Mopongi. On va écouter Roger. Roger, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Roger, merci de votre patience. Vous vous dites, finalement, les élections se passeront très mal. Regardez ça, on a vu tout à l'heure Blaise nous parler effectivement des violences qu'il y avait eu. On sait aussi ce qui s'est passé dans le Kassai où il y a eu des heurts avant l'arrivée de Chadari. Vous craignez des tensions et des violences dimanche, Roger, c'est bien ça?
Tout à fait, madame. Tout à fait, madame Stéphanie. Merci de m'avoir accordé le temps pour la toute première fois de passer dans votre émission.
Bienvenue.
Excusez-moi, tout est prémédité. Tout est prémédité. Il y a des ordres très bien organisés. Hein? Tout à l'heure, Blaise parlait des bureaux de vote, des listes électorales. Rien n'a été imprimé. Même l'opposition ou le pouvoir qui partent pour voter. Il n'y a même pas les observateurs, il n'y a même pas de témoins. Voilà, ils nous embarquent dans une désordre bien organisée et pour que le lendemain, en faisant figure au niveau des communautés internationales, qu'il y a eu l'élection libre et démocratique à NRD Congo. Et c'est le chaos qui se prépare. C'est eux-mêmes le pouvoir qui est en train d'inciter la population. Châtelet, que la population va sortir lundi.
Il y aura quand même 200 observateurs africains. Je pense que des observateurs de l'Union africaine viendront. Par contre, effectivement, le pouvoir n'a pas invité les observateurs de l'Union européenne. C'est plutôt les observateurs, non pas de l'Union africaine, mais de la communauté économique des États d'Afrique centrale.
Peu importe, madame.
Vous disiez qu'il n'y aura pas d'observateurs. Il y en aura quand même, voilà.
Mais je parle même pour les candidats qui partent. Prenons même les cas à l'opposition. Avec tout ce qui s'est passé avec notre l'opposition, ils ne sont même pas préparés en amont, même en aval. Rien n'a été fait. Nanga, il prépare les désordres tranquillement. Tout est bien calculé. Il parle maintenant il est allé en Afrique du Sud pour aller imprimer des bulletins de vote. Il rentre quand? Quand est-ce qu'ils vont déployer le matériel, le bulletin de vote? Quand? Il nous reste 2 jours. Il nous reste 2 jours seulement. Donc, c'est juste pour inciter la population, c'est juste pour préparer encore les glissements pour M. Kabila.
Donc, vous voyez un autre report, un autre glissement, Roger?
Tout à fait, tout à fait. Quand il y aura parce qu'il parle, il faut qu'il y ait remise et reprise. De fait qu'il y aura un désordre, la population va sortir. Devinez quelqu'un qui a été enrôlé, il a la carte de l'RTR. Il ne sait même pas où il va aller voter. Il connaît même pas son bureau pour aller voter. Et vous nous parlez aujourd'hui, il nous reste 2 jours des élections en RD Congo.
Beaucoup d'interrogations, Roger, effectivement, sur le déroulement. Est-ce que vous pensez que les sanctions de l'Union européenne qui ont été prolongées contre des membres de pouvoir, dont Emmanuel Ramazani Chadari, peuvent faire pression sur le pouvoir pour que cette journée justement du 23 décembre se passe bien?
Moi, je voudrais d'ailleurs que ces sanctions soient purement totales. Pas seulement de Chadari, de le gouvernement en place. Le gouvernement est responsable. Est responsable. Voilà un État...
Au gouvernement, d'ailleurs, plutôt discret. Je pense au Premier ministre Bruno Tshibala.
Quel est Tshibala? Tous ces mondes, ce sont tous les oiseaux des mêmes plumages. Ils le savent, Tshibala, il le sait qu'il n'y aura rien. Il le sait qu'il y aura... D'ailleurs, il est incapable de s'exprimer aujourd'hui, de nous dire la position du gouvernement, qu'est dit le gouvernement. On nous emmène dans je ne sais pas, on est incertain, nous avons les parents là-bas, nous avons les frères, nous avons la famille, on ne sait pas comment ils vont se lever lundi matin. On ne sait pas.
Beaucoup de craintes, Roger.
Mais non, mais là, vous parlez des nations ou de l'État. On a dans un pays le non-État. L'État n'existe pas. Et là, je rejoins maintenant. Nous avons l'histoire qui nous enseigne. J'ai rejoint ce que disait le cardinal Laurent Mossengo.
Hein? Les médiocres. Il faut chasser les médiocres.
Non, ils demeurent toujours dans la médiocrité. Et ils nous ont même parlé dans une prison ciel ouvert dont les Congolais sont pris en otage. Ils ne savent rien faire. Que ce soit les gens de pouvoir, que ce soit les gens de l'opposition. Voilà ce qui s'est passé entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Nous nous posons la question, est-ce que réellement nous avons des hommes politiques ou les hommes d'État dans ces pays? Ou nous avons... Je ne sais pas si on est humain. Je ne sais pas, est-ce que nous avons les gens intellectuels, intelligents, les gens qui réfléchissent, les gens qui sont purement congolais? On est tenté de douter de tout le monde, là. On est tenté de douter de tout le monde.
Merci.
À qui, on ne sait pas à qui reposer notre confiance. On ne le sait pas. Reposer notre confiance à Fayoulou.
Pour vous, toute la classe politique a échoué. Hein. Vous avez du mal à avoir, comme vous dites, confiance dans l'opposition. C'est bien ça, Roger?
Oui. Bon. Il y a eu quand même un monté quelque part, au niveau de l'opposition. Mais ils ont préparé leur chaos. Il y a eu gâché à dernière minute. À dernière minute.
C'est très clair. Merci beaucoup, Roger, de votre participation. Roger, hein, également plutôt pessimiste sur le bon déroulement du scrutin. Pourtant, hein, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que ces élections constituaient une occasion historique de procéder au premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, à la consolidation de la stabilité dans le pays, la création des conditions de son développement. Cette occasion historique sera-t-elle saisie, mon cher Ruffin? Bonjour.
Oui, bonsoir. Bonjour, Madame Atman.
Bonjour, Monsieur Ruffin.
Ça me fait rire, les déclarations de l'ONU. Bon, mais bref.
Qu'est-ce qui vous fait rire, Ruffin? L'occasion historique du transfert démocratique?
Voilà encore des organismes qui ont bien préparé le désordre en Afrique, après qu'ils viennent nous faire des déclarations tout le temps, des déclarations sans lendemain. Bon, bref. Moi, en fait, je voulais dire, mais c'est triste pour les Congolais qui pensent que un pays sous occupation, il peut avoir des élections dans un pays sous occupation.
Occupé par qui, Ruffin?
Mais occupé par des Rwandais, tout le monde le sait. Le député belge à l'Union européenne, il a dit, Kabila a été mis là par les États-Unis pour bien manipuler. C'est un petit Rwandais qu'on a pris, qu'on a mis là pour bien manipuler, tout le monde le sait.
Bon, si vous dites aux Rwandais qui sont manipulés par les Américains, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient. Ruffin,
madame.
Il y a quand même un État qui s'appelle la RDC et que l'occupation n'est pas un fait. Vous pouvez peut-être parler d'occupation dans l'Est, effectivement, où les frontières sont poreuses.
C'est dans tout le Congo. Donc, il y a quelqu'un qui vous a parlé de l'administration qui est prise en otage là.
Mais oui, mais on en parle assez sur cette antenne, Ruffin.
C'est la vérité, madame. C'est un pays sous occupation.
Je suis pas sûr que le terme sous occupation soit très juste, malheureusement, mon cher Ruffin. On a déjà évoqué cette question sur cette antenne, et effectivement, les lourdeurs de l'histoire récente de la République démocratique du Congo, notamment ses relations avec ses voisins. Mais bon, voilà. Est-ce que on peut parler vraiment d'occupation au sens strict? C'est pas sûr. Merci beaucoup, Ruffin, qui a peu de confiance dans ces élections, finalement, aussi, puisqu'il nous dit que ce n'est pas le gouvernement congolais qui s'en occupe. Guy, bonjour. Allô, Guy?
Allô?
Bonjour, Guy.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie.
Alors, vous parlez d'une révolution du bassin du Congo?
Tout à fait, Madame Stéphanie.
C'est dimanche, la révolution?
Oui, mais nous parlons d'une révolution du bassin du Congo, parce que dans un État dictatorial, tyrannico-sanguinaire, il peut jamais avoir des élections, Madame Stéphanie. Les élections, c'est dans un État démocratique, là où il y a la transparence, la transparence plutôt, la liberté d'expression. Et là, une voix, un vote, un homme, une voix. Mais dans le cas de la RDC, il peut jamais avoir des élections. C'est une mascarade. Donc, nous parlons plus des gilets jaunes congolais. Cette situation des gilets jaunes doit s'interpersonnaliser. Donc, c'est la révolution du bassin du Congo qui s'apprête.
Vous voulez vous appelez un mouvement des gilets jaunes dans les deux Congos, c'est ça?
Tout à fait. Dans les deux Congos et jusqu'à au Gabon, dans toute l'Afrique centrale. Parce qu'il nous faut une révolution. Tous les Congolais, d'une manière générale, sont debout pour booster tous ces dictateurs hors d'état de nuire. Les peuples souffrent. Comme dans des états riches, les populations croupissent dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas de bons. Bref, c'est un chaos. Les pays sont à genoux. Donc, ceux qui parlent des élections, donc ils comprennent rien. Les élections ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions. Il n'y a pas de listes électoraux. On ne connaît pas les bureaux de vote. Les machines à voter n'existent pas. Ils ont eux-mêmes brûlé des cartons vides pour nous faire croire que c'est un incendie criminel. Mais comment, Dieu, on peut brûler une zone aussi puissamment gardée? Mais sinon, ce monsieur n'avait pas besoin de brûler la CENI. Il pouvait aller faire un coup d'État, donc c'était plus simple.
On arrive à la fin de l'émission, Guy. Vous pensez que les élections vont bien se dérouler dimanche?
Mais y a pas, ça peut pas se dérouler bien, puisque déjà, avant même les élections, tous les jours, il y a des morts en RDC. Comment les élections peuvent se dérouler dans des bonnes conditions, alors il y a des zones de non-droit?
Bon, merci.
Donc, les élections, merci. C'est la révolution du bassin du Congo.
On l'a compris, Guy qui en appelle un mouvement des gilets jaunes dans le bassin Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. On n'a pas eu le temps de prendre Ibrahim qui nous disait les élections n'en valent pas la peine. Et puis il y a Biaksubo Paimi qui nous est sur Facebook. Hein, malgré les mauvais actes posés par le pouvoir en place en empêchant les opposants de donner des meetings, j'encourage la CENI à faire preuve de responsabilité dans sa noble mission. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule radio africaine. À demain.